Pour ce troisième débat économique en vue du second tour, nous accueillons autour de la table deux économistes, Nicolas Marques, directeur général de l'Institut économique Molinari, et Michaël Zemmour, maître de conférence à l'Université Paris 1 et chercheur associé à Sciences Po, laboratoire LIEP. Une émission proposée par Thibaut Moméja, Aliette Ovine, Guillaume Ménard, Diane Devancet et Anna Kubiak. Bonjour Michaël Zemmour et Nicolas Marques.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la retraite est l'un des grands sujets de cette élection présidentielle. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut peut-être commencer par rappeler comment fonctionne notre système de retraite. Nicolas Marques, il s'agit d'un système par répartition créé en 1945 et qui repose sur une très forte solidarité intergénérationnelle.
Oui, parce qu'en répartition, on a des cotisations patronales et des cotisations salariales, il y a aussi des impôts, qui alimentent une caisse commune qui permet de financer les retraites. Alors on y reviendra, il y a d'autres modes où ces cotisations en fait sont placées et qui permettent là aussi de financer les retraites et la solidarité intergénérationnelle.
Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans, mais il faut peut-être distinguer, Michaël Zemmour, l'âge légal et l'âge à taux plein.
Oui, 62 ans, sauf si on a commencé à travailler très jeune, donc auquel cas on peut partir à 60 ans, et à partir de 62 ans, on a le droit de prendre sa retraite. Après, la retraite, elle est calculée en fonction d'un certain nombre de règles, et on doit avoir cotisé 42 ans aujourd'hui, 43 ans dans quelques années, et c'est quand on a atteint cette limite d'âge que le calcul de la retraite est considéré comme normal, c'est-à-dire à taux plein. Et pour les personnes qui ont des carrières trop courtes, il faut parfois attendre jusqu'à 67 ans pour atteindre cette retraite à taux plein.
Alors le Conseil d'orientation des retraites, qui rend régulièrement des rapports sur la question, prévoit que le déficit dû au financement des retraites se chiffrera à 12 milliards d'euros en 2027. Est-ce qu'on peut dire que notre système de retraite est à bout de souffle, Michaël Zemmour ?
Non, vraiment pas du tout. Le diagnostic général du Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il n'y a pas de danger financier sur le système, à moyen terme et à long terme. Au sens où c'est un système qui fonctionne bien et au sens où il y a eu énormément de réformes par le passé qui ont équilibré ces comptes. Le fait qu'il y ait un déficit, ça veut dire qu'il faut trouver des financements ou en allouer ou discuter, mais c'est un déficit qui est tout à fait tenable. Alors un déficit, on peut en faire plein de choses dans un système, soit on peut le laisser, ce qui veut dire en fait qu'on emprunte et qu'on le repaiera plus tard, soit on peut chercher à le combler, alors soit en réduisant les pensions d'une manière ou d'une autre, soit en allant trouver des recettes.
Il y a urgence à réformer, Nicolas Marques, ou est-ce qu'on peut se permettre encore d'attendre ?
Un bémol par rapport au diagnostic du Conseil d'orientation des retraites, il calcule de façon très étrange le déficit, parce qu'il considère que tout ce qui est retraite de la fonction publique, c'est équilibré, puisqu'ils disent, on a une convention qui dit les comptes de l'État sont équilibrés. Alors on sait tous que depuis 1974, en France, il n'y a pas eu un seul équilibre. Et on sait tous que quand on regarde les comptes de l'État, structurellement, l'État dépense 30% de plus que ce qu'il collecte. Et donc, si le Conseil d'orientation des retraites calculait les déficits comme le fait un actuaire, il aboutirait plutôt à 2 points de déficit. Il aboutirait à peu près à 40 milliards de déficit par an, là où il se contente d'afficher 12. Mais c'est purement factuel, c'est en raison de la convention qu'ils ont prise.
Donc ce déséquilibre, nous dites-vous, pointé par le corps est sous-estimé,
oui.
Et ça va dans le sens d'une nécessité d'aller plus vite vers une réforme pour vous,
oui.
Nicolas Marques.
Il est sous-estimé de 1 à 3, parce qu'en France, on pratique une... Alors, dans le public, il n'y a même pas vraiment de répartition, puisque dans le secteur public, on a démantelé les caisses de retraite en 1853, on n'en a jamais recréé depuis. Dans le privé, à la CNAV, on pratique une répartition, mais une répartition très instable, parce qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de réserve, il y a beaucoup de déficits. Hein. La Caisse nationale de l'assurance vieillesse, elle est en déficit 80% du temps depuis 15 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment de structurel, qui est totalement anormal. Il y a plein de régimes par répartition, beaucoup mieux gérés dans le monde. Et donc concrètement, il y a ces deux sujets-là. Aujourd'hui, les retraites non préparées, ça absorbe 60% de la hausse des dépenses publiques depuis 1960. C'est quelque chose de majeur. Et donc on ne partage pas l'avis du corps qui calcule ses déficits de façon très très surprenante.
L'inquiétude liée aux retraites s'appuie souvent sur ce chiffre, hein, cette idée que les coûts liés à la retraite représenteraient 15% du PIB. Il faut s'en inquiéter ou non, Michaël Zemmour ?
D'abord, la question des moyens qu'on consacre à la retraite, c'est d'abord un choix politique, un choix de répartition, quels moyens on consacre aux plus anciens et selon quelles règles. Donc, et c'est ce que dit le corps en fait, c'est un choix politique. Le deuxième point, ce que dit le corps fondamentalement, il dit on calcule des déficits avec différentes conventions parce qu'on nous le demande, ça donne des indications, mais en réalité, ce qui est vraiment important, c'est quels sont les moyens sociaux et publics qu'on consacre aux retraites en France. Aujourd'hui, on est à 14 points de PIB, et du fait des précédentes réformes, cette dépense, ce niveau de dépense est déjà orienté à la baisse. On va s'orienter vers 13, 12,5 dans les 30 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est maîtrisé. On n'est pas dans une trajectoire explosive du tout, on est plutôt dans une trajectoire décroissante, alors même qu'on va avoir de plus en plus de retraités. Et c'est peut-être ça qui pose question, on va avoir de plus en plus de retraités, on ne va pas y consacrer davantage de moyens, sauf s'il y a des réformes qui vont dans ce sens. Et donc du coup, pour moi, la principale question, c'est comment on va faire dans 20 ou 30 ans avec des retraités qui auront des pensions sensiblement plus faibles. Donc du point de vue financier, le diagnostic du corps est ça baisse. Et alors après, pourquoi est-ce qu'on parle de déficit? Bah, tout simplement parce que globalement, alors il n'y a pas un déficit. En réalité, il y a plein de caisses différentes. Il y en a en excédent, d'autres en déficit, mais elles se font des transferts. Mais globalement, l'État aimerait bien se désengager. L'État aimerait bien diminuer les moyens qu'il met. Et en fait, il aimerait les diminuer plus vite que cette baisse des dépenses. Et donc c'est pour ça qu'il affiche des déficits, qu'il construit un petit peu, pour mettre la pression sur le système en disant « Est-ce qu'on ne pourrait pas baisser les dépenses un peu plus vite ?»
Nicolas Marquez.
Oui, j'ai une vision un peu différente, mais qui étrangement est complémentaire de celle de Michael. En fait, comme je vous le disais, l'État, il y avait des caisses. Les ministères avaient des caisses jusqu'en 1853. Certaines étaient bien gérées, certaines étaient moins bien gérées. En 1853, l'État a dit « J'arrête toutes ces caisses, ministère par ministère, je récupère tous les capitaux et je servirai moi-même les retraites par le budget. » À l'époque, au XIXe siècle, c'était pas quelque chose de très très lourd. Et puis est arrivé le contre-choc du baby-boom, les années 1964, et là, l'État a une pyramide démographique en tant qu'employeur qui s'est inversée. Et aujourd'hui, dans la fonction publique d'État, il y a 0,9 cotisants pour un retraité. Et donc ça vous déséquilibre tout, et ça vous explique que l'État dépense à peu près 62 milliards de traitements nets, de traitements et de primes nettes pour ses personnels l'an passé, et 58 milliards de retraites. Pour 1 euro de salaire net, il y a 1 euro de retraite.
Ça, c'est vraiment un point qui vous rassemble, hein, cette idée que l'évolution démographique a de quoi inquiéter, et cela du côté des salariés du privé comme du côté des fonctionnaires, Nicolas Marquez.
Et effectivement, l'État, aujourd'hui, a du mal à faire ses missions standards, a du mal à bien payer les instituts, les infirmières, parce qu'il paye autant pour les retraités. Alors, nous, à l'Institut économique Moulinari, on se dit, bon, on n'en serait pas là si on avait fait comme toute une série d'États sérieux, qui, voyant la pyramide démographique se désagréger, ont mis de l'argent de côté. On n'a pas provisionné pour les retraites. Vous soyez au Québec, l'État provisionne les cotisations, ce qu'on appelle les cotisations patronales, dans le langage des salariés, hein, prises sur le traitement des fonctionnaires. Les salariés, ou plutôt les employés publics, provisionnent leurs cotisations dans des fonds de pension. Donc ça fait au Québec, il y a un gros fonds de pension régalien, c'est la Caisse des dépôts et placements.
Alors ça, c'est déjà la retraite par capitalisation, ouais. On va y venir, mais un mot peut-être, Michaël Zemmour, sur cette évolution démographique qui alimente, et le discours qui l'accompagne, qui alimente l'idée que la vieillesse serait un fléau, un poids à supporter, Michaël Zemmour.
Non, c'est en fait, il y a deux gros changements importants. Il y a effectivement un vieillissement de la population, parce que les enfants du baby-boom sont déjà rentrés à la retraite et ils vont y passer 25 ans en moyenne. Il y en a qui sont juste en train d'y arriver et donc effectivement on a plus de retraités. La question c'est comment est-ce qu'on s'adapte dans tout un tas de structures de la vie, mais notamment de la retraite. Premier point. Deuxième point, depuis les années 60, effectivement la part des retraites a augmenté, mais en fait pour plein de raisons différentes, la retraite a changé. C'est le même mot mais c'est pas la même chose. En 1945, la retraite c'est une assurance pour les gens qui survivent à l'âge de 65 ans, pour qu'ils soient pas trop dans le dénuement et puis ils vont y rester quelques années et pas tous. Aujourd'hui, la retraite, c'est un nouvel âge de la vie, dans lequel on a un niveau de vie qui est proche de celui des actifs. Et la question qui est devant nous, c'est comment on va avoir plus de retraités? Est-ce qu'on fait le choix de conserver ça, ce nouvel âge de la vie, dans lequel on peut vivre sans être en emploi? Ou alors, est-ce qu'on modifie le réglage en disant, on vous donne un revenu minimum, c'est à vous de compléter? Ou alors, vous êtes à la retraite que quand vous êtes hors d'usage pour le marché du travail? Et là, ça serait un nouveau tournant.
Le débat aujourd'hui, je le disais, se concentre sur l'âge légal de départ à la retraite. Emmanuel Macron veut augmenter cet âge légal, le faire reculer à 65 ans, mais il a annoncé ouvrir la porte à un départ à 64 ans. Et puis Marine Le Pen, elle, veut maintenir l'âge légal à 62 ans et le ramener à 60 ans pour certains. Pourquoi la question de l'âge cristallise-t-elle aujourd'hui tous les débats, Nicolas Marquès ?
Parce qu'en fait, on est enfermé dans un problème de gouvernance. Aujourd'hui, la question de l'âge légal, c'est une question d'élection présidentielle. Alors qu'on pourrait très bien dire, mais l'âge légal, c'est aux partenaires sociaux de gérer ça. Pourquoi les partenaires sociaux ? Parce que c'est eux qui, historiquement, gèrent la protection sociale. Ils le font très très bien. Quand vous regardez, par exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, alors là, il y a les partenaires sociaux, mais il y a l'État. C'est assez problématique en termes de gestion. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de réserve. Mais quand on regarde l'Agirc-Arrco, où là, les partenaires sociaux ont les mains libres, sont beaucoup moins dépendants de l'État, ils ont toute une série de règles qui leur permettent, eux, de peser les bons choix, avec une gouvernance, avec des gens qui sont là pour 10-15 ans, qui comprennent les enjeux en termes de retraite, hein, parce que c'est des enjeux de société, mais c'est aussi des enjeux actuariels. Il faut du temps long pour les intégrer et apprendre à jouer finement avec ces paramètres-là. Et ils prennent globalement des décisions très bonnes. La Agirc-Arrco, par exemple, ils ont des points depuis le départ, ces fameux points qu'il s'agissait de généraliser avec la réforme de 2020. Ils ont des réserves, parce qu'en dépit de toute la prévoyance qu'ils développent, il y a des années où il y a des déficits. On l'a vu avec la Covid. Et globalement, ces gens-là, ils n'ont jamais fait de déficit. Ou plutôt, ils n'ont jamais eu de déficit qui crée de la dette. Donc c'est bien géré, ça.
Vous regrettez, Michaël Zemmour, que le débat se concentre autant sur la seule possibilité de reculer l'âge légal de départ à la retraite ?
Alors, je le regrette directement parce qu'en fait, la raison qui pousse à faire cette proposition de décaler à 65 ans n'est pas une raison qui concerne les retraites. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions directement sur le système des retraites. L'état financier du système ne justifie pas de faire ça. La situation du marché du travail ne justifie pas de faire ça. La première raison qui pousse à ça, c'est une raison de finances publiques. Bruno Le Maire, par exemple, a une volonté de baisser les dépenses publiques. Et depuis quelques mois, il dit « pour baisser les dépenses publiques, on va s'attaquer à un gros morceau, on va baisser les dépenses de retraite ». Et pourquoi est-ce que l'âge ? L'âge, c'est vraiment la solution la plus rapide. Si en 10 ans, vous dites à des personnes qui auraient dû être à la retraite pendant 3 ans qu'elles n'y seront pas et qu'une partie d'elles va sur le marché du travail, effectivement, en termes de trésorerie, ça dégage beaucoup de moyens. Et je regrette parce qu'effectivement, notre système a des limitations. Il fait bien son travail, mais il a des limitations. Et on passe à côté, c'est la pénibilité, c'est l'inégalité femmes-hommes, par exemple.
Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai signé à 62 ans. Il y a de moins en moins de salariés. On vous demande de plus en plus de travail. Comment vous voulez arrêter à 62 ans ? C'est pas possible.
Nous sommes à deux dans les services pour 30 malades. Déjà 55 ans, on est déjà usé.
France Culture.
Je me suis arrêté à 57 ans parce qu'à l'époque, on pouvait encore. Et je suis complètement cassé. Alors je vois pas comment les gens qui font des boulots pénibles peuvent travailler jusqu'à 62 ans.
Oh, j'avais encore la pêche. À 60 ans, on peut avoir la pêche. Mais je crois que le problème n'est pas de prendre sa retraite parce qu'on est crevé, justement, mais de la reprendre à un moment où on peut encore profiter de la vie.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Faut-il reculer l'âge de départ à la retraite ? L'âge légal, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture. Nous sommes en compagnie des économistes Michaël Zemmour et Nicolas Marquès. Ce sont des témoignages de 2010 que l'on vient d'entendre. Au cours des 30 dernières années, les réformes sont toutes allées dans le sens d'un recul de l'âge légal de départ à la retraite, Michaël Zemmour ?
Oui, globalement, au début des années 2000, il fallait avoir cotisé 37 années et demie et l'âge légal était à 60 ans. Et aujourd'hui, il faut avoir cotisé 42 ans, bientôt 43, et l'âge légal est à 62 ans. Donc globalement, il y a eu une très forte accélération. On peut même dire, c'est surprenant, l'accélération a été plus forte que les gains d'espérance de vie. On entend souvent cet argument, on vit plus vieux, c'est normal de travailler plus longtemps. Mais en réalité, dans les dernières années, dans les 20 dernières années, on a été plus vite, de telle sorte que les gens qui partent aujourd'hui à la retraite, on leur promet une retraite d'un an de moins que les gens qui sont partis il y a 10 ans. Et ce qui peut expliquer un petit peu des réticences là-dessus. Alors il y a une exception quand même, La CFDT, au début des années 2000, quand ils ont négocié les 40 annuités de retraite, ils ont obtenu le dispositif des carrières longues. Et au courant des années 2000, entre 2004 et 2008, il y a énormément de personnes qui sont parties très tôt, autour de 56-58 ans.
Vous parlez de cet argument qui dit que le report de l'âge à la retraite serait justifié par une espérance de vie qui augmente. C'est en effet un argument qu'on entend beaucoup, mais il faut quand même dire, Nicolas Marquez, qu'il y a des variations considérables selon le métier et le niveau de vie qu'il faut évidemment prendre en compte.
Oui, ça a toujours existé. Mais concrètement, globalement, pour revenir au sujet des déficits, hein, quand on calcule bien les déficits des retraites, c'est structurellement 2 points de PIB. Quand on regarde les déficits des administrations publiques françaises, on est au-dessus de 3 points de PIB. Et concrètement, les retraites, ça absorbe 60% de la hausse des dépenses publiques depuis 1960, et ça représente 2/3 des déficits. Et concrètement, quand la répartition a été mise en place, il n'y avait aucune logique à ce qu'elle soit structurellement déficitaire. Et donc, bien sûr, il y a ce recul de l'âge qui est regrettable, qui est d'autant plus prononcé qu'on ne finance les retraites que par des cotisations et par des impôts. Il n'y a pas d'aspect capitalisation comme ailleurs. Et donc, le curseur le plus réaliste, c'est de reculer l'âge. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas augmenter les cotisations sur les salariés, ça nuit à la compétitivité et ça nuit au pouvoir d'achat, et on ne veut pas trop dégrader les prestations des retraités. On se prépare d'ailleurs, comme le disait Mickaël, des retraites relativement moyennes, voire médiocres pour certains.
Mais est-ce qu'on ne peut vraiment pas augmenter les cotisations ? Vous n'allez pas être d'accord avec cela, Mickaël Zemmour ?
Non, bien sûr que je ne suis pas d'accord. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'une partie des déficits qu'on observe aujourd'hui, qui sont encore une fois très mesurés, ils sont liés à ce qu'on pourrait appeler la politique des caisses vides. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui vont définancer en partie les recettes, notamment de la sécurité sociale. Alors, on peut prendre un exemple parce qu'il est parlant, même si ce n'est pas le plus gros, c'est la prime Macron. La prime Macron met dans la main des employeurs la possibilité de payer leurs salariés quasiment ce qu'on appellerait au black, mais légal. C'est-à-dire uniquement en net, avec aucun droit social associé et aucune cotisation. Ce genre de politique, et il y en a énormément, de désocialisation, ça contribue sensiblement à creuser les déficits dont on parlait. Et globalement, quand on regarde les comptes, encore une fois, ce n'est pas une explosion des dépenses auxquelles on fait face, c'est plutôt une diminution des recettes.
Et ça rejoint l'idée d'un choix politique que vous évoquez.
Clairement. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que puisqu'on a plus de seniors, on a 3 leviers dans les mains. On a l'âge, on a le niveau des pensions et on a les recettes. Et depuis 15 ou 20 ans, on pose le débat comme si on n'en avait que 2. C'est-à-dire vous voulez travailler plus tard ou avoir une pension moindre ou un mix des deux. Et en fait, on pourrait augmenter de manière très mesurée les cotisations pour se donner un peu d'air. Chaque année, les cotisations aux complémentaires santé augmentent bien plus sensiblement et personne n'en parle. On pourrait tout à fait mettre sur la table de la discussion une augmentation des cotisations retraite pour vous donner un ordre de grandeur. Avec 0,1 point ou 0,2 point d'augmentation de cotisation par an, l'image ne serait déjà pas du tout la même.
Mais ça risque pas de pénaliser le marché de l'emploi, d'augmenter le coût du travail pour les employeurs de façon trop importante, Mickaël Zemmour ?
Non, à ces ordres de grandeur-là, personne ne s'en aperçoit réellement.
Alors en tout cas, cette idée d'un report de l'âge de la retraite doit aussi s'inscrire dans une réflexion plus large sur l'espérance de vie et sur l'espérance de vie en bonne santé, puisque, on l'a dit, l'espérance de vie a tendance à continuer à s'accroître. En revanche, l'espérance de vie en bonne santé, il faut le rappeler, Mickaël Zemmour, elle reste stable.
Alors l'espérance de vie en bonne santé, nous dit-on, elle n'augmente pas aussi vite que l'espérance de vie, qui elle-même a été perturbée par le Covid. Et puis en général, quand on regarde les chiffres d'espérance de vie, pour parler retraite, il vaut mieux la regarder à 50 ans ou à 60 ans. Et on voit qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle une prévalence des incapacités qui est importante. Et donc, à l'âge de 60 ans, il y a 1 personne sur 3 qui déclare des limitations d'activité physique, et dont à peu près 1 personne sur 10 des limitations d'activité sévères. Et donc effectivement, il y a cette question de continuer à travailler ou pas avec une santé dégradée.
Et cette question que se posait déjà Montaigne au XVIe siècle, il faisait le constat qu'avec l'âge, les facultés s'érodent. Par ainsi, mon opinion est de regarder que l'âge auquel nous sommes arrivés, c'est un âge auquel peu de gens arrivent. Et puisque nous avons passé les limites accoutumées, ce qui est la vraie mesure de notre vie, nous devons espérer d'aller guère outre. Quant à moi, je tiens pour certain que depuis cet âge, mon esprit et mon corps ont plus diminué qu'augmenté et plus reculé qu'avancé. Il est possible qu'à ceux qui emploient bien le temps, la science et l'expérience croissent avec la vie. Mais la vivacité, la promptitude, la fermeté et autres parties bien plus nôtres, plus importantes et essentielles, se fanent et s'alanguissent. Quand les forces puissantes du temps ont brisé le corps et que nos membres s'affaissent, nos forces étant émoussées, l'esprit devient boiteux, l'intelligence et la langue s'égarent. Tantôt c'est le corps qui se rend le premier à la vieillesse, parfois aussi c'est l'âme. Et j'en ai assez vu qui ont eu la cervelle affaiblie avant l'estomac et les jambes. Et d'autant que c'est un mal peu sensible à qui le souffre et qu'il se manifeste en secret, obscurément, d'autant est-il plus dangereux. Que vous inspire ce texte de Montaigne, Nicolas Marquès ? Qu'est-ce qu'il nous dit de la difficulté à continuer à travailler au-delà d'un certain âge ?
Oui, il dit des choses qui sont tout à fait vraies et qui restent vraies, mais il faut aussi voir l'autre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui, à 67 ans, sont mises à la retraite d'office, par exemple dans la fonction publique, et elles adoreraient pouvoir continuer à travailler. Et surtout, aujourd'hui, on aspire tous à avoir des retraites significatives sans avoir mis d'argent de côté. Et donc, en vivant exclusivement d'une répartition et de finances publiques, qui sont structurellement déficitaires.
Il y a la question de la santé, Nicolas Marquès, mais il y a aussi évidemment la question du chômage et de l'insertion dans la vie active, ou de la continuation de la vie active. Est-ce qu'on peut encore reculer l'âge de départ à la retraite alors qu'il y a déjà un chômage des seniors qui est très important ?
Écoutez, il y a beaucoup de travaux économiques qui disent que ce raisonnement n'est pas le bon.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Pourquoi ? Parce que concrètement, si vous avez un âge de la retraite qui n'équilibre pas les comptes, qui vous conduit à augmenter la pression fiscale, vous diminuez la création de richesses, vous diminuez la création d'emplois, vous diminuez donc vos recettes, puisque finalement, s'il y a moins de création de richesses, moins d'emplois, il y a moins de recettes pour la répartition, et vous créez un cercle vicieux. Et concrètement, si mettre à la retraite tout le monde à 50 ans résorber le chômage, ben, on aurait toute une série de pays qui l'auraient fait, on pourrait s'en féliciter on pourrait les imiter.
A contrario, on peut se dire aussi que vouloir maintenir un certain nombre de gens en emploi alors même qu'ils ont des problématiques de santé notamment, ou des difficultés à trouver un emploi peut entraîner une hausse des prestations sociales hors retraite et assurance chômage. Dans ce cas, cela creuse les déficits.
Alors, c'est un peu différent. On a évoqué différents sujets. D'abord, on a évoqué du tiers des personnes à 60 ans qui ont des sujets de santé. Et cela, il faut leur donner une réponse. Et il n'y a aucune raison de les obliger à travailler. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à notre politique de santé. On a clairement un sujet de politique de prévention qui est défaillante en France. En France, on sait soigner, on ne sait pas prévenir. On voit très bien, par exemple, avec Covid, aujourd'hui, les sujets longs, du type long Covid, sont en dehors du scope. Il y a quelques missions qui commencent à se mettre en place, mais concrètement, on se prépare peut-être des lendemains qui déchantent, mais on ne regarde pas cet aspect-là. Après, si on part du principe qu'il y a un tiers des personnes à 60 ans qui ont du mal à travailler, il en reste deux tiers, et ces deux tiers sont importants pour financer le système. C'est ça la solidarité aussi.
Michael Zemmour.
D'abord, 67 ans c'est tard, mais on n'empêche personne de continuer à travailler au-delà de 62 ans. C'est-à-dire que les gens qui partent, ils sont nombreux à 62 ans, à peu près deux tiers des personnes, sont des gens qui veulent partir à cet âge-là et pour plein de raisons différentes. La deuxième chose, c'est que il y a effectivement la raison pour laquelle il y a des propositions de déplacer la retraite à 65 ans. La première, c'est de baisser les dépenses publiques, et la deuxième, c'est effectivement en fait une réforme du marché du travail. C'est pas, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, que le système de retraite va pas bien. C'est une volonté de réformer le marché du travail pour mettre plus de monde. Quand on fait les calculs, une génération, c'est à peu près 800 000 personnes. Si on compte qu'il y a une personne sur deux qui resterait sur le marché du travail, ça fait à peu près 1 million de personnes en plus sur le marché du travail en une dizaine d'années. Et alors, qu'est-ce que ça fait ça ? Eh ben, on n'a pas de réponse. Alors, il y a l'histoire que nous a racontée Nicolas Marquez, qui est une vraie histoire qu'on trouve dans des modèles, dans des discours. Il y a une autre histoire qui est celle plutôt du partage du temps de travail, c'est-à-dire les seniors prendraient la place des juniors.
C'est vraiment un clivage entre les économistes que vous nous racontez.
Globalement,
là,
on a des bonnes raisons de penser que les deux effets existent, et malheureusement, on n'a pas d'études qui nous permet vraiment de discriminer entre les deux effets. Alors, il y en a qui trouvent, par exemple en Italie, qu'il y a vraiment eu des effets d'éviction des juniors par les seniors. Il y en a d'autres qui trouvent qu'on ne trouve pas d'effet dans les années 80, par exemple, quand on a effectivement on a évincé les seniors du marché du travail pour gérer le chômage dans les années 80 et on ne voit pas bien les effets. Il y a quelque chose qui est très dommage, c'est qu'on a passé la retraite de 60 à 62 ans en 10 ans, dans les 10 dernières années, et on n'a pas d'études là-dessus. Alors on sait quand même des choses. On sait que les personnes qui sont en emploi au moment où on déplace l'âge, elles vont continuer à travailler plus longtemps. Donc celles qui étaient en emploi à 60 ans, elles restent en emploi jusqu'à 62 ans. Donc leur taux d'emploi s'améliore, elles peuvent avoir des difficultés de santé, on y reviendra. On ne sait pas exactement si ça prend la place des plus jeunes. Ça, on n'est pas sûr. La deuxième chose qu'on sait, c'est que ça augmente le sas de précarité pour les personnes qui sont déjà plus en emploi à 60 ans ou à 62 ans. Ceux qui sont sans emploi ni retraite et qui sont à 30% sous le seuil de pauvreté.
C'est 1,4 million en France de personnes de 53 à 69 ans qui ne sont ni salariées ni retraitées, c'est ça ?
Exactement. Et donc Bercy, par exemple, dans ses projections de réforme, se dit si on déplace la retraite à 65 ans, pour 1 euro de retraite dépensée en moins, il faut prévoir 50 centimes en plus de prestations sociales, UNEDIC, handicap, RSA. Et donc à la fois on précarise ces personnes, parce que pour elles la retraite serait clairement une protection, et en même temps on a quand même des dépenses publiques qui sont significatives. Donc on a ces deux effets, il y a des gens qui vont travailler plus longtemps, qui n'ont pas forcément envie de le faire, mais qui peuvent le faire, et puis il y a des gens qui vont être dans un sas de précarité. Dernière question, qu'est-ce que ça fait à l'économie? Et ça non plus, on ne sait pas. Les modèles macro nous disent, en gros, qu'à court terme, ça fait de la récession et ça fait du chômage. Parce que vous mettez un choc, beaucoup de gens sur le marché du travail. Et puis, ces mêmes modèles, ils nous disent, à long terme, mais on ne sait pas quand, on pense que ça crée un peu plus de richesse parce que finalement, le marché du travail arrive à l'absorber. Mais en réalité, on n'a pas de mesure très convaincante, ni de l'un, ni de l'autre. Et donc, on en revient à une grosse incertitude et puis à des choix politiques assez... assez important.
Ce qui est sûr, c'est que ce recul de l'âge légal de départ à la retraite est très contesté, très mal accepté. Il y a une étude du sociologue Jean-Yves Boulin qui montre que les Français âgés de 56 ans ou plus sont moins de 50% à estimer pouvoir travailler 5 années de plus, contre plus de 80% dans des pays comme la Suède ou les Pays-Bas. Comment est-ce qu'on explique, selon vous, de tels écarts, Nicolas Marquez? Pourquoi est-ce que c'est si mal accepté en France, cette idée de travailler plus longtemps par rapport à d'autres pays? Est-ce que c'est lié aux conditions de travail en France?
Alors, je vais pas répondre à votre question, je vais aller encore plus loin, Tiffaine, que vous. Vous regardez la Suède et les Pays-Bas, les retraites sont bien gérées. Il y a peut-être un lien. Hein. Vous regardez par exemple la Suède, il y a de la répartition, il y a des mécanismes d'ajustement qui ressemblent aux points, il y a des réserves. En Suède, la répartition a 56 mois de réserve. En France, l'État n'a rien en réserve pour ses fonctionnaires. La CNES nationale d'assurance vieillesse n'a rien en réserve. La GIRC-ARRCO a en ce moment 10 mois de réserve.
Mais comment on fait accepter un tel système? C'est ça ma question.
Je pense qu'il y a une pédagogie qui a été faite. Et d'ailleurs, quand vous regardez, quand on dit en France les gens n'acceptent pas le recul de l'âge, regardez les partenaires sociaux. Regardez ceux qui gèrent. Ces gens-là savent que c'est important de pouvoir jouer, y compris sur ce paramètre-là, parce qu'ils ont l'habitude du temps long, et ils savent très bien que c'est difficile, à contrario, de baisser les prestations ou d'augmenter les cotisations.
Michaël Zemmour, est-ce que vous auriez des facteurs d'explication? Est-ce qu'il faudrait mettre en lien ces chiffres, le fait qu'il y a la moitié des Français qui n'estiment pas pouvoir travailler 50 plus, la moitié des Français âgés de 56 ans ou plus? Est-ce qu'il y a la moitié des Français qui n'estiment pas pouvoir travailler 50 plus, la moitié des Français âgés de 56 ans ou plus? Est-ce qu'il faut mettre en lien ces chiffres avec le fait que 4 des 10 facteurs de pénibilité qui permettaient de partir à la retraite plus tôt ont été supprimés? Ça, c'était en 2017. Est-ce qu'il faut le mettre en lien avec les conditions de travail?
Là, je vais invoquer mon collègue Bruno Palier, hein, qui dit souvent un objectif, plutôt que de déplacer l'âge de la retraite, ça serait de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Il y a une personne sur deux, en fait, quand elle prend sa retraite, elle n'était pas en emploi la veille, elle était déjà hors de l'emploi. Et donc, elle attend de pouvoir prendre sa retraite. Les conditions de travail, nous disent les enquêtes internationales, sont particulièrement dures en France. la pénibilité, l'exposition aux risques psychosociaux est plus forte. Et aujourd'hui, dans le contexte français, il y a une étude très récente de Thomas Barnet et Éric Defebvre qui montre que la retraite est un refuge pour la santé, que quand on passe à la retraite, le risque d'être en limitation d'activité ou d'être en dépression diminue, et particulièrement pour les personnes qui sont exposées à des risques psychologiques ou physiques à leur travail. Et donc, c'est aussi ça qui est ressenti, une mauvaise formation tout au long de la vie, une mauvaise ergonomie, et donc la retraite comme un refuge, pas pour tout le monde évidemment, mais pour une partie importante de la population.
Alors parmi les mesures visant à rendre notre système de retraite viable à long terme, on a évoqué la possibilité d'augmenter les cotisations, et vous n'étiez pas d'accord l'un et l'autre sur le fait que cela pénaliserait ou pas le marché de l'emploi. Il y a une autre possibilité, c'est un système de retraite par capitalisation en complément d'un système par répartition. Quels en seraient les avantages selon vous, Nicolas Marquès?
Alors l'avantage, c'est de desserrer la contrainte financière. Quand on est en répartition, les retraites sont financées, en théorie, exclusivement par des cotisations. On a vu que ça ne suffisait pas, on a rajouté des impôts et de la dette. Quand on est en capitalisation, quand on développe un pilier complémentaire en capitalisation, il y a toujours une cotisation, mais la cotisation, c'est l'amorce. Elle est placée, on la fait fructifier à long terme, et donc la cotisation fait des petits. Vous savez, c'est les fameux dividendes qui font peur à certains, mais qui plaisent beaucoup à tous ceux qui gèrent la protection sociale complémentaire, parce qu'ils savent que c'est une richesse, et c'est une richesse qui ne pèse pas sur la compétitivité et qui ne pèse pas sur le pouvoir d'achat des cotisants. Et on vend ce capital quand on a besoin de payer les retraites, alors très en amont, pour désensibiliser ça, et ça permet donc, avec la même cotisation, d'avoir plus de retraites. Et c'est un peu notre sujet aujourd'hui, puisqu'on aspire tous à avoir des retraites significatives sans cotiser plus, parce que ça pénalise la compétitivité et le pouvoir d'achat.
Et pour vous, ce système par capitalisation a fait ses preuves pour les fonctionnaires avec le fonds de pension qui avait été mis en place par la réforme Fillon de 2003?
Oui, en 2003, il y a un gros fonds de pension collectif qui a été mis en place. Il s'appelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Il est géré de façon paritaire avec tous les partenaires sociaux, tous les représentants des personnels publics, tous les représentants de leurs employeurs. Il y a une cotisation qui est placée. Elle est investie à long terme, donc c'est bon parce que ça dope la cotisation et ça permet de faire une belle retraite complémentaire.
Alors je vais vous donner la parole, Michaël Zemmour, mais d'abord j'aimerais vous faire entendre ce texte écrit par Jean Jaurès dans L'Humanité le 27 décembre 1909, un texte dans lequel Jaurès, contre toute attente, défend la capitalisation. J'ai dit que la capitalisation, quand elle fonctionne au profit des ouvriers, est le contraire du capitalisme. Quelle est la caractéristique du capitalisme? C'est qu'il fait deux parts du produit de l'activité sociale. Il en attribue une sous forme de salaire aux ouvriers, il en attribue une autre sous forme de rente, de loyer, de profit, de dividendes, d'intérêts aux capitalistes. Or, quand une partie du capital est possédée par la classe ouvrière, quand cette portion du capital porte intérêt au compte des ouvriers, la classe ouvrière, dans la mesure de ce capital, est à la fois capitaliste et salariée. Elle reçoit tout le produit social qui résulte de la mise en œuvre de ce capital par le travail ouvrier. Dans la mesure où la classe ouvrière possède un capital fonctionnant à son profit, toutes les valeurs créées par elle lui font retour. Et la capitalisation fonctionnant au compte et au profit du prolétariat n'est pas une consécration du capitalisme. C'est, sous les formes que permet le système capitaliste et par une application imprévue de son mécanisme, un fragment de socialisation. La capitalisation, un fragment de socialisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Michaël Zemmour?
C'est intéressant. Il y a des bouts d'analyse justes, puis c'est amusant aussi. Bon, faut pas oublier que quand Jaurès parle, il peut pas imaginer qu'un jour il y aura 14% de socialisation et qu'il y aura une retraite par répartition à ce niveau-là qui sera mise en place. je voudrais faire une concession à Nicolas Marques. Effectivement, ce débat sur la place de la capitalisation en France, c'est un peu le débat interdit. C'est-à-dire qu'à chaque réforme, les gouvernements qui veulent diminuer, en gros, les retraites publiques, font comme si ça n'était pas un sujet, alors qu'effectivement, c'est le modèle dans les autres pays européens. On a un pilier public et les gens qui en ont les moyens, plutôt les cadres, mais un peu tout le monde, complètent avec de la capitalisation, ce qu'on a vu en Suède, en Allemagne, en Italie. Est-ce qu'ils en sont contents? Ça se discute. Le niveau des pensions là-bas est plutôt, le niveau de vie des retraités est plutôt plus faible, le niveau d'inégalité un peu plus important, mais en tout cas, c'est le vrai débat. Alors maintenant, est-ce que c'est souhaitable? Encore une fois, c'est un choix politique, mais par contre, je ne vais pas être d'accord avec l'analyse de Nicolas Marques quand il dit ce qui est bien avec la capitalisation, c'est que l'argent fait des petits. En réalité, dans les deux cas, qu'on soit en répartition ou en capitalisation, on peut calculer un rendement. Le rendement des cotisations sociales, c'est la croissance de la masse salariale. Et le rendement de la capitalisation, c'est la croissance des profits. Comme disait Jaurès, ça fait des retraités des capitalistes. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien? En tout cas, dans les années 80, il y avait un discours des économistes pour dire la capitalisation, c'est plus rentable, etc. On est largement revenu de ça. Le seul moyen pour que la capitalisation soit plus rentable dans un pays comme la France, ce serait d'aller placer nos économies à l'étranger. Ce serait extrêmement risqué, donc personne ne le propose. Après, quand vous lisez par exemple le petit livre d'Antoine Bozio et Thomas Piketty qui préfigurait le système à points, eux, ils tranchent par exemple contre la capitalisation et les arguments qu'ils donnent, c'est de dire c'est très volatile, c'est trop risqué de mettre son avenir à court terme dans un système qui peut, à chaque crack, subir des très gros chocs. Donc ça, c'est un des arguments. L'autre argument, c'est les frais de gestion. On en a beaucoup parlé au moment des complémentaires santé avec le débat sur la grande sécu. On s'est rendu compte que les complémentaires santé coûtaient beaucoup plus cher en gestion que la sécurité sociale. Aux États-Unis, par exemple, il y a des débats très importants sur les frais de gestion. Et puis, troisième argument, parce que je sens que Nicolas Marques veut répondre, je ne connais pas de système de capitalisation qui ne vive pas largement subventionné par des crédits d'impôt publics. Et donc, on veut réduire la dépense publique, mais en réalité, il faut quand même payer deux choses. La cotisation au système privé, donc ça veut dire en fait plus d'argent pour les retraites, mais privé, et par ailleurs des subventions publiques.
Beaucoup d'arguments, qu'est-ce que vous répondez à cela, Nicolas?
Oui, ouais, c'est hyper intéressant. D'abord, j'aime aussi beaucoup Thomas Piketty, et quand on regarde son Capital au XXIe siècle, il fait la plus belle ode à la capitalisation collective. Pourquoi? Parce qu'il dit, le capitaliste s'enrichit plus vite que le salarié. Parce qu'il dit, le capitaliste, il a ses sommes qui sont placées, et le rendement du capital est bien supérieur au taux de croissance des salaires. Si vous appliquez Thomas Piketty, vous êtes en faveur de la capitalisation collective. Et d'ailleurs, quand on lit les petites notes de bas de page de Thomas Piketty, il dit « Ouais, mais c'est complexe, donc on ne peut pas les laisser les gens faire leur capitalisation eux-mêmes. Ça tombe bien, nous, à l'Institut économique Molinari, on défend la capitalisation collective. » Alors après, Michael Zemmour a dit « C'est risqué, il y a des crises. » Il suffit juste de regarder le rendement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Il a été créé en 2003, donc il a subi des crises, et son rendement est supérieur à 5% depuis que la gestion a réellement commencé en 2006. Donc, bien sûr qu'il y a des crises, mais quand vous connaissez la gestion long terme des fonds de pension, qui est une gestion à 20, 30, 40 ans, la crise d'un moment est potentiellement pour eux quelque chose de relativement anodin, parce que si la bourse baisse, elle remontera, et ce qui compte, c'est le long terme.
Et sur les frais de gestion trop importants?
Alors les frais de gestion, mais c'est justement un argument pour la capitalisation collective. Quand vous allez voir votre banquier ou votre assureur, que vous passez deux heures avec lui pour vous faire expliquer comment fonctionne un plan d'épargne retraite individuel ou une assurance vie individuelle, vous avez coûté deux heures, ça a coûté 120 euros au banquier, et donc il va vous faire un produit où il va mettre des droits d'entrée, des frais de gestion élevés. Quand vous êtes en capitalisation collective, le banquier, l'assureur, il négocie avec la CGT, FO, l'UNSA, et les frais disparaissent quasiment. Vous regardez l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, les frais, c'est 0,2% des encours gérés. Et donc, ça vous explique pourquoi il y a une vraie performance, parce que la performance, elle va au salarié. Et le salarié profite, comme le disait Jaurès.
Les salariés et aussi les entreprises. Est-ce que vous considérez, Michael Zemmour, que la capitalisation peut avantager les entreprises dans le sens où elles disposent d'un fonds pour financer leurs innovations?
Aujourd'hui, les diagnostics macroéconomiques, c'est plutôt qu'on a un excès d'épargne qu'un manque d'épargne. C'est-à-dire que c'est une recette très à la mode quand on dit « Ah, il n'y a pas assez d'épargne, il faut de l'argent pour investir. »
Aujourd'hui, à condition que cette épargne soit fléchée vers l'innovation.
Oui, c'est compliqué parce que vous n'avez certainement pas envie que votre retraite dépende de l'investissement dans votre propre entreprise. Parce que si votre entreprise fait faillite, vous perdez les deux. Donc vous avez intérêt quand même à diversifier. Et puis ensuite, aujourd'hui, clairement, on ne manque pas d'épargne. Au contraire, on a trop d'épargne.
Nicolas Marquez ?
Alors, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on manque d'épargne longue et on a un très bon indicateur. On n'a pas de géants du numérique en Europe. Pourquoi les géants du numérique sont aux États-Unis ? Parce que c'est de l'épargne longue. Quand vous voulez devenir un géant du numérique, les profits sont à 10-15 ans. Souvenez-vous d'Amazon. Amazon, au début, n'a jamais fait de profit. Souvenez-vous de ces boîtes type Google ou autres. Et elles ont été financées par le Nasdaq américain, qui est lui-même financé par les fonds de pension. Et c'est pour ça, c'est parce qu'ils ont des acteurs qui résonnent à 20-30 ans, qu'ils occupent les industries d'aujourd'hui. Souvenons-nous notre révolution industrielle. Notre révolution industrielle, la première, celle qu'on a dominée avec les Anglais, elle était le fruit du drainage de l'épargne longue. Dans les provinces, les réseaux des notaires collectaient l'argent. La Caisse des dépôts collectait l'argent des sociétés de secours mutuelles françaises. Ça, c'était investi. Et ça finançait les canaux, ça finançait les chemins de fer, ça finançait l'industrie. C'est parce qu'on n'est plus capable d'investir long qu'on n'est plus dans les révolutions industrielles de la révolution économique d'aujourd'hui.
Alors il y a la capitalisation collective et puis les systèmes de retraite, d'épargne retraite individuelle. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de la réforme qui avait été menée par le gouvernement Schröder en Allemagne en 2001 à ce sujet, Michael Zemmour?
Écoutez, ce qui se dit, c'est que pour le coup, ils avaient joué carte sur table en Allemagne. Ils avaient dit on bloque le système par répartition, un peu comme c'était l'idée en France. Mais en France, on a dit il n'y aura que des gagnants, il n'y aura pas de problème et votre niveau va se maintenir. En Allemagne, ils ont dit on met en place un dispositif Rister, la capitalisation collective.
Individuelle.
Subventionné par des crédits d'impôt, et ça va compléter. Et il me semble que le diagnostic qui est fait aujourd'hui, il y a une alerte importante sur le niveau de vie des retraités en Allemagne, et globalement le diagnostic c'est que ce produit s'est développé mais en dessous des espérances, les gens ont sous-cotisé, et donc ils considèrent finalement que ça n'a pas fait le boulot, et que quand on laisse la liberté aux individus de cotiser, finalement, ils ne préparent pas suffisamment leur retraite.
Nicolas Marquez, en deux mots, parce que j'aimerais qu'on en revienne aux inégalités femmes.
En fait, la recommandation standard type OCDE Banque mondiale, c'est trois piliers. Un régime par répartition, un régime par capitalisation collective et des dispositifs facultatifs individuels, type Rister. Ces dispositifs facultatifs individuels...
Rister, c'est le nom du ministre allemand qui a mis en place cette
réforme. Ça équivaut au père de la loi Pacte, qui repackage ce qu'on appelait le PERP, auparavant. Toujours est-il que ce qui manque en France, c'est la capitalisation collective. Parce que là, vous embarquez tout le monde, il n'y a pas d'inégalité, il y a une négociation collective des frais de gestion, et c'est là que vous avez la meilleure performance. Vous ne laissez personne sur le côté.
On a évoqué les inégalités selon l'emploi. Parlons maintenant des inégalités femmes-hommes sur le montant des pensions.
J'ai 58 ans et depuis quelques temps, je me pose des questions sur ma retraite. Eh bien, je n'aurai peut-être pas le confort que j'ai aujourd'hui, le jour de ma retraite. Jusqu'à 55 ans, à peu près, je ne m'étais pas trop posé de questions. J'ai 3 enfants, donc je suis seule avec ces 3 enfants depuis une quinzaine d'années. Donc, j'avais des priorités au jour le jour. J'avais les mains dans le guidon, quoi. On ne calcule pas, on ne va pas se dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. La première fois que j'ai calculé mon deuxième pilier, suite à une très longue période de temps partiel de 12 ans, 15 ans, eh bien je me suis rendu compte que le temps partiel avait une répercussion, c'était dès qu'on baissait de 30 ou 40 ou 50% son taux d'activité, ça avait une répercussion presque exponentielle sur le niveau de sa prévoyance.
Voilà le témoignage de Françoise Piron, qui est une ingénieure suisse, extrait d'une vidéo réalisée par le journal Le Temps. En France, la situation est la même. Selon la DRES, les femmes percevaient en 2018 un montant de retraite inférieur à 28% à celui des hommes. Comment expliquer un tel écart, Michael Zemmour ?
Il y a deux facteurs, nous disent les travaux notamment de Dominique Meurs. En fait, la retraite, elle est calculée en fonction d'un salaire de référence et en fonction de la carrière. Et sur ces deux facteurs principalement, les femmes en moyenne sont désavantagées. Pour les personnes en emploi, à une même période, il y a un écart de revenu salarial d'environ 20%, donc ça joue sur le calcul de la retraite. Et puis, le nombre d'heures travaillées et même les périodes travaillées sont moins nombreuses pour les femmes, le taux d'emploi est plus faible. Et comme ces deux facteurs jouent dans le calcul de la retraite, ils vont se retrouver à la fin, encore plus dans les systèmes par capitalisation, comme on l'a entendu dans l'extrait, quand elle parle de deuxième pilier, c'est un système en capitalisation, mais c'est aussi vrai dans un système en répartition. Et en fait, on a mis en place des dispositifs de solidarité pour corriger un petit peu ça. Le meilleur exemple, c'est la majoration de durée d'assurance. C'est-à-dire que les personnes qui accouchent ont 4 trimestres de validé automatiquement, et pour chaque enfant qu'on éduque, à discrétion à un parent ou à l'autre, mais par défaut à la femme, il y a 4 trimestres. Donc en gros, 2 années validées par enfant. Donc on met des patchs pour essayer de rattraper un petit peu l'écart, mais le problème, c'est qu'on a fixé au départ des critères qui sont des critères typiques d'un ouvrier masculin. 43 ans, sans interruption, avec un salaire en croissance, c'est le modèle de l'ouvrier avec une carrière très longue. Et à partir du moment où vous fixez ces critères masculins, même si vous mettez des patchs pour rattraper, vous courez toujours après. Peut-être que ce qu'il faudrait envisager à moyen terme, c'est de changer ça. Et si vous me permettez de finir là-dessus, à court terme, il faudra enlever les malus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui n'a pas une carrière complète, elle subit des malus importants, ce qu'on appelle la décote, et elle a le choix entre partir à l'âge légal mais avec une retraite fortement minorée, ou alors attendre l'âge de 67 ans, parfois en dehors de l'emploi, pour ne pas subir ce malus. Et donc il y a effectivement ce qu'on appelle la double peine. Si vous manque 10% de temps de cotisation, votre retraite chaque année sera inférieure de plus de 10%, 15 ou 20%.
Est-ce que la retraite par capitalisation est défavorable aux femmes dans la mesure où elles ont une capacité moindre à épargner, Nicolas Marquès ?
Écoutez, je conteste le fait que les femmes aient une capacité moindre à épargner. Alors,
si on a 20% de salaire inférieur en moyenne aux hommes.
Oui, mais en fait, dans ma vie, j'ai fait 20 ans de gestion d'épargne, et notamment d'épargne retraite. Je peux vous dire qu'il y a un biais sociologique qui est ancré. Les femmes à capacité de revenu égal sont plus précautionneuses que les hommes. Et on a aussi un autre biais cognitif. Certains disent, et Michael Zemmour vient de le dire, la capitalisation est plus défavorable aux femmes. Non, je ne crois pas. Et notamment toutes ces femmes qui commencent à travailler tôt, si elles avaient accès à un système par capitalisation, elles commenceraient à amasser l'épargne tôt, bien en amont, et c'est l'épargne la plus rentable. Quand vous capitalisez, c'est pas l'épargne que vous mettez à 50 ans qui est rentable, c'est l'épargne que vous mettez à 25, 30, 40 ans. Et beaucoup de femmes s'arrêtent pour les enfants, et on peut penser au contraire qu'elle serait mieux dans un système par capitalisation collective.
L'une des questions qui se pose, en tout cas, et on va conclure là-dessus, c'est le fait de vouloir réformer aujourd'hui ce système de retraite, alors même que certains ne bénéficient pas à l'heure actuelle d'une retraite suffisante pour vivre, alors notamment ceux que leurs employeurs n'ont pas déclaré pendant une longue période de temps. Pour conclure, quelle serait, selon vous, les priorités, Michael Zemmour, pour améliorer notre système de retraite ?
Il y a 3 priorités. Peut-être garantir un revenu minimum pour les seniors en élargissant les possibilités du minimum vieillesse, en y donnant accès dès 62 ans, et peut-être en l'individualisant, en faisant pas dépendre ça des revenus conjoints. Deuxième chose, l'inégalité femmes-hommes en supprimant les malus, la décote. Et puis la troisième chose, c'est les polypensionnés en mettant en place un calcul au plus favorable quand vous avez fait votre carrière un peu dans le public, un peu dans le privé. Changer un peu le mode de calcul pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient lourdement pénalisés.
Nicolas Marquès, même question.
Oui, une priorité, c'est généraliser la capitalisation collective en France. Elle existe pour les 4,5 millions de fonctionnaires depuis 2003. Elle a fait ses preuves. Il y a unanimité sur ses qualités. Elle n'existe pas dans le secteur privé. Et notre préconisation, l'Institut économique Molinari avec Croissance Plus, c'est que la GIRC-ARRCO, qui est une caisse paritaire gérée par les partenaires sociaux, en l'occurrence très bien gérée, qui gère un régime de retraite par répartition, prennent en charge aussi la création d'une capitalisation collective sur le modèle de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qui fonctionne très bien et permettent à tous les salariés du privé d'avoir accès à la capitalisation collective.
Alors vos priorités ne sont pas conciliables, Michael Zemmour, un tout dernier mot.
Une blague, il y a un point commun entre Nicolas Marques et moi, on veut tous les deux que les gens cotisent plus pour leur retraite, lui à la capitalisation et moi au système par répartition.
Voilà, c'est formidable, on a presque réussi à vous réconcilier.
Et j'ajoute pourquoi en capitalisation, parce que en capitalisation, la cotisation est bonifiée. Et quand on veut plus de retraite, comme Michael, finalement, c'est une bonne affaire.
Merci beaucoup à tous les deux, Michael Zemmour et Nicolas Marques, de nous avoir éclairé sur les enjeux de la réforme des retraites. Je rappelle, Michael Zemmour, que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, chercheur associé à Sciences Po, au laboratoire LIEP, et Nicolas Marques, directeur général de l'Institut économique Molinari. Un grand, grand merci à tous les deux.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le pourquoi du